Radio Kapi.
Il est 15h à Kinshasa, 16h à Bukavu. Voici les titres de ce journal. Au sud Kivu, la pluie qui s'est abattue hier dimanche sur la ville de Bukavu a fait des morts et des dégâts matériels importants. Le manque d'urbanisation de la ville et surtout des constructions anarchiques restent les principales causes des éboulements de terre. À Ituri, environ 300 vaches ont été volées hier dimanche par des éléments de la milice de la force patriotique et intégrationniste du Congo lors de leur incursion dans deux villages du territoire de Djougou. Des attaques à répétition qui inquiètent des habitants de ces entités dont la plupart ont quitté la zone pour se mettre à l'abri. L'invité de ce journal est le sénateur Augustin Mata-Tampogno. Interdit samedi soir de quitter Kinshasa pour Lubumbashi, l'ancien Premier ministre s'est dit simplement victime d'une injustice. Interview à suivre à la fin de ce journal. Et bonjour et bon après-midi chez vous, Sud Kivu. La pluie qui s'est abattue sur la ville de Bukavu a fait des morts et des dégâts matériels importants. Des membres, des familles entières ont péri dans leur propre maison, tandis que d'autres sont gravement blessés. Le manque d'urbanisation de la ville de Bukavu et surtout les constructions anarchiques restent les principales causes des éboulements de terre. Des détails avec Emmanuel et la Mejiwa Kabidi.
Sur les 6 personnes qui sont mortes dans la pluie de dimanche 20 février soir, 4 sont du quartier Nyalukemba et 2 du quartier Panzi, toujours en commune Dibanda. Dans un ménage sur l'avenue Ikanga, le père, la mère et 2 de leurs enfants sont morts ensevelis dans l'écroulement du mur de leur maison familiale. Les secouristes sont intervenus pour sortir les corps des décombres. D'autres enfants, eux, sont grièvement blessés par ce drame. À Panzi, sur l'avenue Elila Kazaro, 2 enfants d'une même famille sont morts asphyxiés par une motte de terre. D'autres s'en sont sortis avec des blessures. D'autres dégâts, surtout l'écroulement des murs, des maisons sont aussi enregistrés dans d'autres parties de la ville de Bukavu. À Bukavu, tout le monde est conscient que ce sont les constructions anarchiques, surtout liées à la vente et morcellement de parcelles sur des sites impropres à la construction, qui en sont les causes. Emmanuel Elamejoa Kabedi, Bukavu Radio Kapi.
Accident mortel de circulation hier dimanche sur la route nationale numéro 24 entre Businga et Badolité. Bilan, 2 morts et plusieurs blessés avec d'énormes pertes matérielles. L'accident a eu lieu alors que le camion de transport s'est renversé sur un pont en bois en mauvais état. La société civile interpelle les autorités afin de financer la réhabilitation complète de cette route nationale très capitale pour l'économie du Nord Ubangi. Des détails avec Paul-Richard Malengela.
Des témoins affirment que l'accident a eu lieu à 3 km du village Loko sur la route Businga-Badolité. Un véhicule bondé de passagers et de marchandises s'est renversé sur un pont de fortune en bois. Le premier bilan fait état de 2 morts, dont un opérateur économique bien connu à Badolité. La victime qui regagnait Kinshasa convoyait une importante cargaison de friperies. Il y a eu aussi des blessés et plusieurs dégâts matériels, ajoutent des témoins. Quant à la cause de l'accident, nos sources pointent du doigt le mauvais état du réseau routier de la province. C'est pourquoi le président du cadre de concertation de la société civile du Nord Ubangi a placé les autorités devant leurs responsabilités. Taylor Taïma.
Nous avons toujours dit qu'il y a un problème concernant nos routes, parce que comment les gens peuvent circuler et les biens. La réalité est que nous sommes désolés, parce qu'on sait qu'il y a enterré les morts à cause des accidents liés au mauvais état de la route. Donc c'est un regret. Et nous demandons c'est que ça c'est la route numéro 24, c'est une route nationale. Et comment on peut mettre les moyens pour qu'on puisse réhabiliter cette route? Donc c'est ça le problème.
Par ailleurs, Taylor Taïma craint que la situation ne s'empire avec le retour de la saison pluvieuse. Et pour éviter de compter davantage de morts, il plaide pour une réhabilitation urgente de cet axe routier d'une grande importance économique pour la province. Bandaka pour Chamalengue, la radio Okapi.
En Ituri, 300 vaches ont été volées hier dimanche par les éléments de la milice des forces patriotiques et intégrationnistes du Congo lors de leur incursion à Nyara et Tiendabo, deux villages du territoire de Djougou situés à 12 km du centre-ville de Bounia. Selon des sources sur place, ces hommes armés sont revenus en Corse lundi matin pour commettre de nouvelles exactions, mais ils ont été repoussés par des militaires des FARDC. Des attaques à répétition qui inquiètent les habitants de ces entités, dont la plupart ont quitté la zone pour se mettre à l'abri. Le point avec Jean-Claude Lokidile.
C'est à deux reprises que ces miliciens ont attaqué hier le village Niara, d'abord vers 8 heures locales, pour emporter 73 vaches, rapporte la société civile locale. Alertés, des militaires des Fadés sont vite intervenus pour chasser ces assaillants. Dans leur fuite, ils ont abandonné toutes ces bêtes volées. Celles-ci ont été restituées à leurs propriétaires, affirme notre source. Puis, peu après 13 heures, ces rebelles sont revenus en grand nombre, indiquent des témoins. Les soldats des Fadés sont répliqués pour les repousser, ce qui a plongé les habitants de Bounia dans la panique générale, car ces détonations d'armes se faisaient entendre dans plusieurs quartiers au chef-lieu de la province. Des maisons de commerce ont fermé leurs portes. Certaines personnes ont passé leur nuit au centre-ville avant de regagner leur domicile ce matin, rapportent des sources sur place. Mais une autorité coutumière jointe au téléphone déplore le vol de plus de 280 vaches par ces miliciens. Elle plaide pour le renforcement de l'effectif des soldats des FADC en vue de sécuriser la population et ses biens. Ce chef coutumier indique que c'est chaque semaine que ces hors-la-loi organisent des incursions dans cette zone. Bounia, Jean-Claude Lequi, Dile, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, plus de 200 pirogues motorisées de pêcheurs congolais saisies en Ouganda ont été libérées ce week-end par la marine ougandaise. Cette libération intervient deux semaines après celle des pêcheurs détenus dans les districts de Kasese en Ouganda. C'est le résultat des négociations entre les gouvernements congolais et ougandais, d'après le comité des pêcheurs de Vichumbi. La fédération des comités des pêcheurs individuels du lac Édouard, FECOPEIL, estime que la réglementation de la pêche sur le lac Édouard du côté congolais reste la solution durable à cette problématique des arrestations récurrentes des Congolais par les marins ougandais. Des détails avec Denis Lukeso depuis Goma.
Saisies depuis 5 ans par la marine ougandaise, 270 pirogues motorisées de pêcheurs congolais ont été libérées, affirme le secrétaire général de FECOPEIL. Josué Mukura souligne que le premier lot est arrivé vendredi et s'est poursuivi samedi dernier. FECOPEIL se réjouit de cette libération et réitère son appel au gouvernement congolais pour organiser une pêche responsable afin d'éviter que des pêcheurs congolais ne soient des victimes d'arrestations sur les lacs Édouard.
Nous demandons vraiment ce que le gouvernement congolais n'attend pas, ce que nos pêcheurs soient arrêtés en Ouganda pour aller négocier avec les Ougandais. Mais nous voulons assez que la frontière d'abord soit bien sécurisée par la force navale et l'ICCN, mais aussi matérialiser la frontière pour montrer la frontière entre l'Ouganda et le Congo. Mais aussi, il y a des pêcheurs qui partent en Ouganda puisque au Congo, il n'y a plus de poissons et surtout que nous avons une grande partie du lac mais mal réglementée. Donc la solution durable, c'est réglementer la pêche au niveau congolais, voire la capacité halieutique.
Josué Mukura ajoute qu'il y a une semaine, 30 autres pêcheurs congolais de Vichumbi ont été encore arrêtés et 10 pirogues motorisées saisies par la marine ougandaise. Goma, Denis Luke sur Radio Kapi.
Dans la province de la Tchopo, les usagers des routes Opala et Ubundu se plaignent des tracasseries civiles et militaires dont ils sont systématiquement victimes. Chaque passant est obligé de payer 10 000 francs congolais, faute de quoi il est retenu sur place. Il sollicite l'intervention des autorités pour mettre un terme à cette situation qui accentue leur pauvreté au quotidien. Le point avec Jacques Moukonkoli.
Au point kilométrique 8, axe Kisangani Opala, tout passant est contraint de payer 10 000 francs congolais. Il en est de même au PK5, axe Ubundu, rapporte les victimes. Le non-paiement de cette somme expose le récalcitrant à une fouille systématique au risque de tout perdre, souligne-t-elle. Témoignage.
Fouillé, basu mbongo 100 000, basu yango.
On m'a fouillé, ils ont pris mon argent, 100 000 francs congolais. J'avais de l'argent pour acheter du sel avant de regagner mon champ. J'ai trouvé 3 militaires à la barrière, de PK8. J'avais 2000 francs, je leur ai remis, mais quand ils ont contrôlé, ils m'ont ravi 30 000 francs.
Ces traitements font partie du lot quotidien des usagers de ces routes. Le président de Saouti Yalubunga, héritier Isomela, ne s'explique pas la multiplicité des services et surtout la présence de certains services non attitrés à ces postes.
Pourquoi il y a la présence de la garde républicaine au niveau du PK8? Il y a également le service taxe vélo de la commune. Il y a également le service taxe vélo du secteur Lubuya. Nous avons au moins 5 services qui sont également installés à côté de services attitrés qui tracassent la population.
Selon des sources proches du ministère provincial de l'Intérieur, le comité de sécurité est déjà saisi de cette situation. Une descente avec les commandants de la 31e région militaire est prévue incessamment sur les lieux afin d'y remédier. Jacques Moukonkole, Kisangani, Radio Kapi.
Manifestation ce lundi en Mbujimayi au Kasaï oriental des enseignants des coordinations provinciales des écoles orthodoxes et des réveils. Ces enseignants réclament le paiement de leur salaire de 8 mois. La direction provinciale de ce COP Kassai Oriental affirme que ces enseignants sont parmi les quatre coordinations des écoles conventionnées, orthodoxes et de réveil, désactivées depuis le mois de juillet dernier par le ministère de l'EPST pour non-viabilité. Les démarches sont en cours pour qu'une solution soit trouvée à cette situation, déclare les directeurs provinciaux de ce COP ad interim. Des explications avec Esther Ndalafina.
Ils étaient des dizaines devant le bureau du service d'encadrement et de contrôle de la paie des enseignants, CECOP en sigle, calico en main, des fanfares et des sifflets. Ces enseignants des écoles conventionnées orthodoxes réclament 8 mois de salaire. Un d'eux s'exprime.
Nous sommes venus ici réclamer notre situation salariale. Nous nous sommes retrouvés au mois de juillet 2021 et le salaire ne sortait pas. On a mené les recours depuis juillet 2021. Il y a les documents que le ministre lui-même a signés le 10 décembre 2021 pour qu'on puisse payer tous les agents qui étaient désactivés de la liste de paie dès le mois de janvier 2022. Pendant que nous vous parlons, les listes de paie sont venues, nous ne sommes nulle part.
Daniel Kabeya, directeur provincial de CECOP ad interim, affirme que les démarches sont en cours au niveau du ministère pour régler cette situation.
Depuis le mois de juillet, leurs salaires ont été désactivés pour non-viabilité pour ces bureaux-là. Mais l'autorité nationale a promis qu'il leur serait accordé un moratoire jusqu'au mois de juin pour voir dans quelle mesure ils peuvent donc revenir pour remplir ces conditions-là. Nous attendons toujours de notre direction que la situation soit donc régularisée. Nous avons reçu des promesses fermes de notre directeur national disant attendez avec la paie du mois de février et nous attendons.
Signalons que les bruits des manifestants n'ont pas permis aux agents de la division provinciale de l'EPST de travailler en toute quiétude. Esther Ndalafina, Mbujimaï, Radio Okapi.
Ce 21 février, c'est la journée internationale de la langue. Certains scientifiques et linguistes pensent que la maîtrise de la langue maternelle est une valeur culturelle qui permet de s'identifier en tant que membre d'une communauté ou par rapport à une autre communauté linguistique donnée. Ces derniers appellent les parents à préparer leurs enfants à l'apprentissage de la langue maternelle dès le bas âge. C'est ce que dit Otniel Katembo Sihingiroa, linguiste et chef de travaux à l'université officielle de Semouliki. Il est au micro de Marc Marofimbo.
Premièrement, la responsabilité reviendrait aux parents parce que ce sont les premières personnes qui initieraient, intéresseraient les enfants à aimer leur langue maternelle. Mais si nous, parents, nous intéressons à prendre soin de nos langues maternelles et intéresser nos enfants, de bien les chérir à la maison, tout comme partout où ils seraient, ces enfants ne manqueraient pas à bien respecter ces langues maternelles et ne manqueraient pas aussi à nous représenter partout où nous passons. Donc, ça revient à nous, parents, de montrer à nos enfants la valeur de nos langues maternelles parce que c'est sur base de la langue maternelle qu'on peut découvrir que telle ou telle autre personne fait partie d'une telle ou telle autre communauté. Et si jamais on est fier de sa communauté, on ne peut jamais manquer de brandir sa langue maternelle, peu importe là où on peut se retrouver. Nous ne manquerons pas aussi à intéresser nos enseignants aussi, d'encourager nos enfants à aimer ces langues maternelles dans la mesure où une fois nous parents et enseignants des enfants donnerons de la valeur à nos langues maternelles, ces derniers ou bien ces enfants ne manqueraient pas aussi à brandir ces langues maternelles partout où ils iraient.
20 ans de Radio Okapi, c'est déjà ce 25 juillet 2022. Comment ce média des Nations Unies a-t-il pu contribuer à améliorer, tant soit peu, le travail quotidien des activistes des droits humains et par-delà, le vécu quotidien des Congolais vivant en Nord Kivu? C'est la question que notre reporter a posée à certains activistes de la province. Pour ce dernier, la dénonciation sans aucun frais par Radio Okapi des atteintes graves aux droits humains reste les meilleurs bénéfices dont ils puissent bénéficier, eux et le grand public congolais dans son ensemble. Jules Ngala pour plus de détails.
Ici, c'est une activiste des droits de la femme qui reconnaît l'action positive de Radio Okapi dans l'exercice de ses activités quotidiennes. Maître Nelly Lumbulumbu estime que, ne fût-ce que la gratuité de la communication, est déjà très bénéfique pour les jeunes organisations, souvent sans moyens.
C'est la Radio Okapi, je ne paye pas quand je m'exprime et je peux porter ma voix très haut, même jusqu'au niveau international avec la Radio Okapi. Et à partir de l'appui que la Radio Okapi nous accorde, il y en a des partenaires qui nous ont cherchés pour dire « voici, je voudrais travailler avec vous ».
Là-bas, c'est un ancien responsable de la société civile qui évoque un cas de violation des droits de l'homme qui aurait pu tourner mal si Radio Okapi n'avait pas servi de canal pour sa dénonciation. Papa Paluku Luatumba Théodore raconte.
Un jour, on avait pris en otage certaines personnes comme Mai Mai à Kiwanja. Okapi avait fait quelque chose de bon. Effectivement, 2 jours après, il y avait relâchement de ces 3 personnes soupçonnées de Mai Mai.
Goma, Jules Ngalawa Mona, Radio Okapi.
Actualité internationale.
La nouvelle charte de la transition au Mali a été adoptée à l'unanimité ce lundi par les membres du Conseil national de transition, le CNT, qui fait office d'organe législatif provisoire dans le pays depuis la prise de pouvoir par des militaires. Cette charte présente plusieurs nouveautés. Il y a déjà le nombre de parlementaires désignés et non élus qui passe de 121 à 147 et pour la durée de la transition. Dans le texte, il est aussi écrit que les prochaines élections présidentielles, dont la date n'est pas encore connue, vont marquer la fin de transition. L'ex-président de la Géorgie, Mikhail Saakachvili, désormais chef de file de l'opposition, a annoncé ce lundi qu'il a entamé une nouvelle grève de la faim pour protester contre ses conditions d'incarcération après celles menées l'an dernier pendant 50 jours. « J'entame une grève de la faim », a déclaré Mikhail Saakachvili devant un tribunal de Tbilissi demandant à recevoir des soins médicaux adéquats en prison. Cet ancien dirigeant est incarcéré depuis octobre à la suite d'une condamnation pour abus de pouvoir qu'il qualifie de politique.
L'invité
de ce journal est le sénateur Augustin Matata Ampogno. L'ancien Premier ministre a été interdit samedi soir de quitter Kinshasa par l'aéroport de Njili alors qu'il voulait se rendre à Lubumbashi pour enterrer sa jeune sœur. Augustin Matata s'est dit simplement victime d'une injustice. Il s'est entretenu avec Noëlla Luzitu Kabambi.
Sénateur Augustin Matata Ampogno, bonjour.
Bonjour, madame.
Le samedi 19 février, vous avez été empêché de voyager pour Lubumbashi pour aller enterrer votre jeune sœur. Quelles sont les raisons qui vous ont été données par le service de migration?
Je vous dirais, en principe, il n'y a aucune raison au jour d'aujourd'hui qui pourrait m'empêcher de voyager librement à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Comme vous le savez, à la suite des poursuites judiciaires dont je fais l'objet, la Cour constitutionnelle a rendu un arrêt qui indique l'incompétence de la Cour constitutionnelle à pouvoir juger un ancien Premier ministre que je suis. Et le même arrêt de la Cour constitutionnelle souligne qu'un ancien Premier ministre, comme d'ailleurs un ancien président de la République, ne peut être jugé par aucune juridiction d'ordre judiciaire lorsqu'il a terminé son mandat pour des faits commis en l'exercice de ses fonctions. L'article 168 de la Constitution, alinéa D, indique que les décisions de la Cour constitutionnelle sont exécutoires immédiatement et s'imposent à tout le monde dès la présence de la République aux citoyens le plus petit. Maintenant, pour répondre à votre question, lorsque je suis arrivé à l'aéroport avec mon épouse, parce que je devais aller enterrer ma jeune sœur, celle qui vient juste après moi, il m'a été dit par le chef de section aéroport de la Direction générale des migrations que M. Matata, vous n'êtes pas autorisé à voyager. Je lui ai posé la question, mais qui m'interdit de voyager? Il dit, c'est une décision qui vient d'en haut. Je suis étonné, parce que j'étais à l'extérieur du pays, madame. Je suis rentré dans mon pays, donc si je devais fuir, je devais rester dans ce pays. Je suis rentré, je suis allé devant la justice pour témoigner mon innocence, parce que je n'ai pas pris un dollar dans le projet Bukangalonzo. C'est de l'injustice que nous sommes en train de vivre.
Mais qu'est-ce qui peut être à la base de cette injustice, justement?
C'est la question que tout le monde se pose, moi aussi. Mais qu'est-ce qu'on veut, M. Matata? Que je quitte la RDC ou que je m'étude? J'ai été empoisonné lorsque j'étais auditionné au parquet près de la Cour constitutionnelle. Quand j'ai demandé l'autorisation d'être soigné, tout le monde a refusé.
Où en est-on à ce jour avec la question de recouvrement de vos immunités?
Mais en principe, madame, mes immunités, je les ai. Je ne les ai pas du fait de M. Matata, je les ai du fait de la Constitution de la République. Parce que mais un président du Sénat n'est pas au-dessus de la Constitution de la République. Donc mes immunités, en principe, je les ai. Mais le problème, c'est que la Direction générale d'immigration refuse d'appliquer la décision de la Cour constitutionnelle. Que dois-je faire? Je suis prisonnier politique dans mon propre pays. Et pendant ce temps, on chante l'état de droit. L'état de droit, on le voit dans le concret, dans la protection des libertés des individus. Lorsque vous pouvez empêcher un sénateur qui a totalement recouvré ses immunités de voyager parce que c'est une décision d'en haut, c'est ça qu'on appelle l'état de droit.
Sur le plan judiciaire, y a-t-il encore une quelconque affaire dans laquelle vous êtes poursuivi?
Non, en principe, madame, il n'y a aucune autre affaire. Toutes les actions qui ont été menées par le procureur général près la Cour constitutionnelle ont été jugées anticonstitutionnelles. Vous savez, madame, lorsque la démarche visant à lever mes immunités sur les dossiers Boukangalonzo a échoué, le président du Sénat, Modeste Bahati, en complicité avec le procureur général près de la Cour constitutionnelle, ont monté de toutes pièces un dossier sur les biens aérianisés pour détournement des 140 millions de dollars qui ont été payés à des personnes fictives. Tout a été fait pour que je ne bénéficie pas des documents pour me justifier. Dieu aidant, j'ai trouvé tous les documents et le procureur général Mukolo a été obligé devant mon avocat de dire « Je vous demande pardon, je présente mes excuses, votre dossier est vide, il doit être classé sans suite. » Mais ce même procureur général Mukolo, qui se croit tout puissant et au-dessus de la Constitution, ne veut pas classer les dossiers. Tout ce que moi je peux dire, c'est demander aux institutions politiques de ces pays de respecter les décisions de la justice. Enfin, je demande à toute la population congolaise de suivre cette question de près. Parce que si aujourd'hui cela arrive à M. Matata, qui est traité de manière injuste dans son propre pays, mais cela peut arriver à une autre personne.
Sénateur Augustin Matata Mponyo, je vous remercie.
Merci beaucoup, madame.
Et c'était notre invité, le sénateur Augustin Matata Mponyo, qui s'est dit victime d'une injustice pour avoir été empêché samedi soir de voyager de Kinshasa à Lubumbashi. Fin de ce journal, merci de l'avoir écouté. Vous pouvez continuer à le suivre sur toutes les plateformes numériques des Radio Okapi.